Voici un passage pas difficile à trouver. Le psaume 130. Il n'y a que 8 versets, donc on va lire ces 8 versets, même si le gros du message sera sur 2 versets. Mais on va quand même voir hein, l'ensemble de ces versets à travers cette prédication et surtout à la fin. Mais tout le monde a eu le temps de trouver ce psaume, le psaume 130 à partir du verset 1er. Cantique des degrés, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Tu voulons, on va s'attarder surtout sur les versets 5 et 6. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Il répète cette phrase une deuxième fois pour montrer l'importance et l'accent de cette vérité. Et donc, tout simplement, j'aimerais qu'on parle sur le fait d'attendre, d'espérer et regarder. Et j'espère que vous aurez remarqué, avant de voir ces trois termes, ces deux versets 5 et 6, ce verset premier où tout le contexte de ce chapitre 130, il est dit qu'il écrit « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. » Du fond de l'abîme, ce n'est pas rien. Les paroles qui vont suivre ne viennent pas d'un homme qui est sur une montagne spirituelle. Ces paroles ne viennent pas d'un homme qui est dans une grande réussite, où tout va bien, les choses vont comme il aime. Il n'est pas en train de voir victoire après victoire. C'est le cœur d'un homme qui est, comme il le dit lui-même, au fond de l'abîme. Au fond, c'est même plus qu'un gouffre, mais on comprend qu'il est au plus bas. Ceci est un bon rappel. Qu'importe le chrétien, nous avons tous, sans exception, des moments où nous serons sur des hauts spirituels, des montagnes, des moments de victoire sur victoire, mais nous allons tous, sans exception, également passer par des moments où nous allons nous retrouver dans notre gouffre, dans notre abîme, des moments où les choses ne vont plus du tout. Et parfois, ce sera de notre faute, et parfois pas. Rien ne nous dit ici qu'il y ait à cause de que c'est de sa faute. C'est possible. Parce que, bon, bah, on va en parler tout à l'heure. Avec le verset 4, il parle de péché, etc. Mais il ne faut pas s'étonner. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie. À partir du moment de notre salut, ça ne va pas aller que de victoire en victoire en victoire jusqu'au retour de Christ. Ce serait bien, Dieu le désire, mais ce ne sera pas toujours le cas. Et nous avons tous des moments où nous labourons, nous plantons sans voir grand-chose en retour. Tout comme nous passons par des moments où nous récoltons et nous avons l'impression de récolter beaucoup plus qu'on a planté. Nous avons des moments de victoire, nos montagnes, ainsi que nos moments où nous avons l'impression d'être dans un gouffre sans fin, sans moyen de s'en sortir. Et ce psaume devrait nous rappeler que personne n'est exemple d'être la prochaine personne qui se trouve dans cet abîme. Je ne dis pas que cela pour nous alarmer, je dis cela pour nous encourager. Parce qu'effectivement, ça devrait m'encourager de savoir que je ne suis pas le seul à me retrouver au fond parfois. Et vous savez comment c'est, quand on est au fond, c'est toujours l'un des premiers sentiments qu'on ressent. Je suis nul, il n'y a que moi, tous les autres, ils vont bien, tout le monde passe par des moments de victoire merveilleux. Moi, je suis au fond, je suis seul. Il n'y a que moi qui fais ça. Et ce n'est pas vrai. Et que non seulement ce que d'autres le sont aussi, mais en plus, parfois, même les personnes que je considérais comme étant plus grands dans leur vie spirituelle que moi, se retrouvent eux aussi dans leur abîme. Mais surtout, je devrais être encouragé en voyant que non seulement ces autres chrétiens se retrouver dans l'abîme comme moi, mais surtout de les voir s'en sortir. Ils ne sont pas restés. dans cet abîme, et me dire que moi non plus, je ne suis pas obligé de rester dans mon abîme. C'est un moment temporaire, c'est un endroit temporaire. Je ne suis pas obligé d'y rester. Parce que ça aussi, c'est l'un des premiers sentiments qu'on ressent, qu'on est vraiment, pas juste qu'on est tombé, mais comme on utilise cette image, au fond de l'abîme, j'ai l'impression d'être seul, mais j'ai aussi l'impression que c'est impossible de s'en sortir. Et c'est pas vrai. Et on parlera de ça dans un instant encore un peu plus. Mais j'aimerais qu'on regarde ensemble avec plus de précision les mots utilisés dans le verset 5. Il dit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. » Mais avant de les voir, je dois mentionner l'évidence que nous donne ce psaume dans sa totalité. C'est que si nous voulons sortir de notre abîme, nous devons absolument prier, prier et prier encore. Il dit du fond de l'abîme quoi? Je t'invoque, ô Éternel. Et on est obligé de commencer à cela. Que si nous voulons sortir de notre abîme, nous devons absolument prier, prier et prier encore. Ce psaume entier est une prière. C'est pas juste le premier verset qui l'est, c'est le psaume entier qui est une prière. Oui, c'est cantique des degrés. Mais c'est parce que ce psalmiste était au plus bas qu'il ne s'est pas dit, ben, là je suis vraiment au fond, c'est même plus la peine de prier. Mais au contraire, je crois que c'est parce qu'il est au fond qu'il a vu l'importance de prier. Et la Bible est remplie de personnes qui priaient quand ils étaient au plus bas ou au plus mal. Et nous avons de nombreux psaumes écrits par David, hein, où certains quand il craignait pour sa vie, quand il était pourchassé, d'autres où il était au plus bas à cause de son propre péché, et etc. Mais on le voit prier. Comme le verset 4 de notre psaume nous le rappelle, le pardon se trouve toujours auprès de l'Éternel, auprès de Dieu. Peu importe notre péché, peu importe depuis combien de temps nous avons péché, et que depuis nous avons ajouté péché sur péché, nous pouvons avoir l'impression d'avoir creusé notre propre fosse. On peut avoir l'impression que nos péchés sont si nombreux et si grands que nos péchés nous empêchent de quitter cet abîme sans fond. Mais peu importe nos impressions, ce ne sont que cela. Nos émotions, ou ce que disent même notre adversaire, Dieu nous rappelle, verset 4, mais le pardon se trouve auprès de Dieu, afin qu'on te craigne. Mais pour avoir ce pardon, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, on doit avouer, on doit reconnaître, mais on doit également prier. Confesser notre bouche auprès de lui-même et avouer notre culpabilité. Dieu promet de pardonner. Nous pouvons commencer alors à ce moment-là à sortir de notre abîme. Nous avions besoin de comprendre et nous rappeler que cette vérité fondamentale avant de poursuivre et voir les points principaux. Il fallait que je parle de cela, de ce contexte immédiat de cette prière, de ce chapitre, avant qu'on prenne le temps de voir ce verset 5 et 6. Seulement, quand on se rappelle et qu'on ne remet pas en doute, pardon, le fait que Dieu est fidèle, que Dieu est juste pour nous pardonner. Alors à ce moment-là, les versets 5 et 6 devraient nous aider et nous encourager. C'est-à-dire, j'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes comptent sur le matin, que les gardes comptent sur le matin. Quand nous sommes remplis de la paix de Dieu, malgré l'abîme dans laquelle on se trouve, la paix de Dieu nous aidera à accepter ainsi que comprendre comment nous devons attendre, espérer et regarder. La première chose, verset 5 dit, mon âme espère en l'Éternel, espérer en l'Éternel, ou si vous préférez, pour moi dans ce contexte, attendre. Parce que le mot espérer ici, c'est le mot hébreu kava, qui est la définition de ce mot et dans le sens strict de lier ensemble en entremêlant. Je ne sais pas si vous connaissez quand vous achetez des pains de mie. Il y a ces petites attaches de ces métalliques souples où tu mets l'attache et tu les plies l'un sur l'autre, c'est entremêlé entre les deux pour attacher le pain de mie. Et c'est ce que ce mot veut dire. Ça, c'est dans le sens strict. Dans le sens figuré, ce mot veut dire d'attendre avec espérance ou attendre patiemment avec anticipation. Quand il dit j'espère, et on a beaucoup de psaumes qui utilise ce terme d'espérer en l'Éternel. En anglais, c'est souvent traduit wait on the Lord. Parce que ce mot, dans son sens figuré, veut littéralement dire d'attendre avec cette espérance. Et vous l'avez compris, ce mot espérer ici donne cette idée que nous devons attendre patiemment avec une entière espérance que Dieu fera comme il a promis. Ce n'est pas une fausse espérance. On peut attendre avec joie et on peut attendre avec paix parce qu'on sait qu'on n'attend pas pour rien. Parfois, les plus grandes déceptions qui nous mènent donc vers le découragement sont dues parce que on a fait l'effort d'attendre, d'être patient, juste pour être déçu à la fin. Mes enfants aiment beaucoup mon frère et sa famille. Leur oncle Jeff, j'en parle de temps en temps. Oncle Jeff. Et il a 4 enfants. Donc ils aiment leurs cousins. Ils ont vécu en France pendant un moment. Ils sont maintenant aux US. Mais c'est les personnes qu'ils aiment beaucoup être avec. Alors, si mon frère dit, je vais venir vous rendre visite, et je le dis à mes enfants, ils sont tout excités, ils sont contents, ils comptent les jours, et ensuite le jour même, ils comptent les heures. Ils vont bientôt arriver, juste pour avoir un appel, pour dire, ah, quelque chose est arrivé, en fin de compte, on ne vient pas. La déception est plus grande que s'ils ne savaient pas qu'ils venaient, qu'on leur ait rien dit, au cas où, non. Mais ils sont déçus. Alors que s'ils n'avaient pas prévenu de venir du tout, c'était une journée comme une autre. Mais là, ils avaient dit, bon, on va venir. Donc l'anticipation, dit, ben, là, je vais être patient, je vais attendre avec cette espérance, juste pour au bout d'être déçu, c'est ben, le reste de la journée, elle est fichue. Et Dieu nous dit qu'on n'a pas à avoir cette crainte avec lui. Dieu nous dit qu'on peut espérer en lui sans crainte d'être déçu. Jamais. Non seulement est-ce que Dieu ne faillira jamais dans ses promesses, mais il fera même au-delà de ce qu'on osait espérer. Vous vous rappelez de Éphésiens 3:20, n'est-ce pas? Il dit, Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Non seulement est-ce que Dieu est fidèle et juste pour faire comme il a promis, mais très souvent ce sera même bien au-delà. Mais on n'a jamais aucune raison de craindre qu'il faillira, qu'il ne fera pas comme il a promis, qu'on a attendu, qu'on a espéré en lui pour rien. Après tout, ne devons-nous pas constamment être dans un état d'attente devant le Seigneur en tant que chrétien? Ne suis-je pas moi constamment en train d'attendre sur Dieu pour me guider? Ne suis-je pas en train de prier, Seigneur, aide-moi, Seigneur, pourvois, Seigneur, donne-moi sagesse, Seigneur, donne-moi discernement pour savoir prendre les meilleures décisions? Seigneur, fortifie-moi, encourage-moi. Une fois que je prie cela, ne suis-je pas dans une situation un peu d'attente pour que le Seigneur fasse comme il a promis? D'attendre ne veut pas dire qu'on est là sans rien faire. C'est pas, on n'a jamais dit cela. D'attendre veut dire qu'on peut se mettre au travail parce qu'on sait que Dieu s'occupera de nous. Seigneur, j'ai remis tout ça entre tes mains et maintenant, j'attends, j'espère en l'Éternel parce que je sais que mon attente n'est pas en vain et donc je me mets au travail. J'espère en l'Éternel veut dire que j'accepte de faire le travail que Dieu demande de moi et de laisser Dieu pourvoir à mes besoins. Au lieu d'essayer de pourvoir à mes besoins et ensuite, avec le temps qui me reste, faire le travail que Dieu demande de moi. Et c'est ce que font beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas? Ils font de leur mieux pour s'occuper de leurs propres besoins. Et avec le temps qui reste, bon, maintenant je peux faire ton travail, Seigneur. Au lieu de dire, Seigneur, je remets entre tes mains, je fais ton travail, occupe-toi de moi, comme tu as promis. J'espère en l'Éternel, ça veut également dire que je lui remets tout. Mon espérance ne se trouve pas dans mes projets, dans mes plans, dans mon organisation, dans ma sagesse ou dans mon compte en banque. Je dois m'organiser, je dois planifier, je dois être économe. Mais mon espérance se trouve en Dieu et non dans mes capacités d'être un bon administrateur, d'être bien organisé, etc. Mon espérance se trouve en Dieu, en l'Éternel. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Nous devrions non seulement être d'accord de dépendre sur Dieu, mais on devrait être heureux de pouvoir dépendre sur Dieu, parce qu'on sait que ce n'est pas en vain, on sait qu'on ne sera pas déçu. Nous savons que c'est une espérance dans laquelle Dieu accomplira ce qu'il a promis. Ceci est tout aussi valable pour le chrétien individuellement que pour l'Église. Après tout, notre espérance en tant qu'Église se trouve en Dieu et non en nous, même pas en notre pasteur. Notre espérance ne se trouve pas dans notre nombre, notre espérance ne se trouve pas dans la capacité de ce que cette Église peut faire. Elle se trouve en Dieu. Si nous avons du mal à garder notre espérance intacte en tant qu'Église, peut-être que c'est parce que nous avons du mal à garder notre espérance intacte individuellement d'abord. On ne peut pas espérer à ce que cette Église soit forte dans son espérance envers Dieu en tant qu'Église si on n'est pas tous individuellement forts dans notre espérance envers Dieu, individuellement. Mais si nous sommes forts dans notre vie spirituelle individuelle, alors nous serons automatiquement forts dans notre vie d'Église en tant qu'Église. J'espère en l'Éternel. Enlever l'espérance, qu'est-ce qu'on a? La peur, le doute, l'incertitude, l'anxiété, toutes les choses qui mènent au découragement et la dépression, toutes les choses qui sont contraires à la foi. Vous enlevez l'Éternel, mon espérance est, et c'est, mettez ce que vous voulez à part l'Éternel, qu'est-ce que vous avez? Tout ce qui vous donneront des raisons d'être déçus. Seule une espérance en Dieu n'est jamais déçue, qui produira la paix, la patience, la joie, la confiance. Mon espérance est en Dieu et non dans mes œuvres ou dans mon mérite. Je n'ai pas une confiance en Dieu que Dieu fera comme il a promis parce que je le mérite, mais à cause de qui Dieu est, de ma compréhension de sa personne. Je peux donc en être certain, avoir la joie et la paix de savoir que mes péchés sont pardonnés, que Dieu ne m'a pas abandonné et que Dieu pourvoira et agira toujours pour mon bien à cause de qui il est lui et non parce que je le mérite. Ça ne vous a pas échappé de voir que le mot espérance est mentionné deux fois, n'est-ce pas? La deuxième fois, mentionnant que c'est mon âme qui espère. Il dit, j'espère en l'Éternel, mon âme espère. Alors, pourquoi? Et mon âme qui sait attendre avec cette joyeuse espérance, cette assurance que tout ira bien. Mon âme espère. Ça démontre que ce n'est pas juste quelque chose d'intellectuel. Ce n'est pas juste une compréhension, une connaissance. Ce n'est pas juste une émotion non plus. C'est au plus profond de mon être que je fais un choix délibéré de tout mon être. Au plus profond, mon âme espère. Je mets toute ma confiance en l'Éternel sans exception. Nous avons appris ou nous devons apprendre à espérer en l'Éternel. Surtout quand nous prions, surtout quand nous sommes au fond de cet abîme, quand nous venons ensemble le dimanche en tant qu'Église ou que nous soyons seuls pendant la semaine, nous ne prions pas avec le doute et l'anxiété dans le cœur, avec l'opposé de la foi. Notre âme espère en l'Éternel. Notre âme fait confiance en l'Éternel et notre âme, notre être entier, ne sera pas déçu en l'Éternel. Mais le psalmiste ne parle pas seulement d'espérance, n'est-ce pas? Il dit également dans ce verset 5, j'espère en l'Éternel, mon âme espère, il dit, j'attends sa promesse. J'attends sa promesse. Et pour moi, voilà l'espérance. Personnellement, ça me paraît logique. Si mon espérance se trouve en Dieu, alors je n'ai aucun problème pour être patient et savoir attendre. Le mot attend ici, c'est le mot hébreu yachal, qui veut littéralement dire, là aussi, attendre avec espérance. Bah, on peut revenir à l'exemple de la prière. N'avons-nous pas tous des prières pour lesquelles nous devons être patients parce que Dieu n'a toujours pas répondu ou pourvu à une prière spécifique? Mais également, le temps qui passe ne devrait pas remettre en doute notre espérance et donc notre patience. Dieu n'a-t-il pas promis qu'il va pourvoir? Dieu n'a-t-il pas promis de toujours répondre, pas de toujours dire oui à tout ce qu'on demande, mais il a promis de ne pas ignorer la moindre requête pour ensuite nous donner la meilleure solution et réponse pour notre situation. Certains d'entre nous avons prié pour le salut d'un parent ou d'un autre membre de la famille. Cette personne, malgré les années de témoignages et de prières, ne sont toujours pas sauvées. Est-ce que ça veut dire qu'on doit arrêter? qu'on doit perdre patience. Non, que cela ne nous empêche pas de continuer à prier pour eux, avec persévérance, avec patience, mais aussi avec espérance. Depuis, avant même notre première, certains le savent, avant même que nous ayons notre première rencontre d'église dans ce local, pendant qu'on était encore en train de remodeler pour la rendre aux normes, j'ai commencé déjà à prier que le Seigneur envoie un homme français pour lequel il a appelé au pastorat pour prendre la relève de cette église. Pas qu'il soit prêt à le faire tout de suite, mais que nous ayons la joie de pouvoir le voir grandir et mûrir au milieu de notre église et d'avoir la joie de le voir prendre ensuite la relève de cette église au moment voulu quand Dieu le décidera. Les années qui vont passer ne devraient pas changer le fait que je peux prier cette prière avec patience, avec persévérance, mais aussi avec espérance. Ce n'est pas parce que les chiffres et les nombres qu'on peut trouver me montrent que il y a de moins en moins de Français qui répondent à l'appel que je n'ai pas besoin de prier. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Le fait est, nous attendons tous, chaque jour, sur quelque chose. Alors la question évidente à se poser, qu'est-ce que vous attendez? Attendez-vous à ce que la situation dans laquelle vous vous trouvez s'améliore avant d'être plus sérieux dans votre vie spirituelle? Est-ce là où vous attendez ou est-ce que vous attendez au Seigneur et dans ses promesses? Attendez-vous à ce que vous soyez plus mûr et plus mature avant de vous engager dans votre témoignage? Attendez-vous à ce que les autres fassent quelque chose avant que vous vous décidiez de vous bouger vous-même? Ou attendez-vous en l'Éternel et sa promesse? Vous aurez remarqué qu'il ne dit pas ses promesses, n'est-ce pas? J'attends sa promesse. Le mot ici, c'est le mot dabar qui veut littéralement dire une parole. Donc on peut traduire ce verset de la façon suivante. J'espère en l'Éternel, mon âme met sa confiance en lui, et j'attends avec cette ferme assurance ou espérance que l'Éternel tiendra sa parole. C'est une autre façon qu'on pourrait traduire ce verset d'une manière littérale. Mon âme, j'attends avec cette ferme assurance que l'Éternel tiendra sa parole. Notre espérance en Dieu sera toujours justifiée. Il ne nous donne jamais la moindre raison de croire qu'on sera déçu. Alors pourquoi refuser d'attendre, juste parce qu'on est impatient? Dieu fera comme il a promis, pas comme nous avons demandé. C'est pas pareil. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme il dit. Pardon. Il n'a pas oublié, il n'est pas en retard, il ne va pas faire comme s'il n'avait rien promis non plus. Personnellement, j'attends avec une ferme assurance le retour de Christ. Aussi bien le moment qu'il reviendra nous prendre dans les airs que le moment qu'il reviendra pour régner pendant 1000 ans. J'attends l'accomplissement de sa promesse, mais en attendant, j'attends sur l'Éternel pour tous les aspects de ma vie. J'attends que c'est lui qui bénisse le travail que je fais. Sinon, tout travail devient inutile si Dieu n'y fait pas partie. J'attends que Dieu me bénisse, qu'il me fortifie, qu'il me remplisse de sagesse, de force, de paix, parce que sinon, j'essaierai de travailler de par mes propres moyens, et là aussi, c'est futile. Tous les jours, j'attends sur l'Éternel pour me délivrer des pièges du mal, du péché et même de ma propre chair, parce que je suis mon pire ennemi. Même aujourd'hui, avec chaque prédication, j'attends sur l'Éternel pour que lui bénisse le travail que j'ai fait par la foi, dans la préparation, et ainsi que la prédication que je donne par et avec amour. Mais si lui n'est pas parti avec cela, c'est inutile, c'est en vain. Je sais que ce n'est pas mon travail, mes paroles qui toucheront les cœurs de qui que ce soit. Mais Dieu peut bénir sa parole et la prédication pour toucher les cœurs des personnes qui, eux aussi, espèrent en l'Éternel. Je ne sais que ce ne sont pas les paroles que je prononce dans mes prières qui font la différence, mais j'attends sur l'Éternel pour que lui agisse et réponde à mes prières. Non parce que je le mérite, mais par amour, par compassion, par miséricorde, par grâce, j'attends sur l'Éternel pour qu'il garde sa parole et accomplisse sa promesse. Les enfants gâtés n'aiment pas attendre, mais nous devons être des enfants reconnaissants. Nous devrions prendre plaisir à être dans un état d'attente, une attente remplie d'espérance parce qu'on sait qu'on n'attend pas pour rien, qu'on ne sera pas déçu. Dieu tient toujours sa promesse, sa parole. Et pour terminer, se regarder. Parce qu'il dit dans le verset 6, mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. On peut facilement voir l'allusion et la comparaison qui est faite ici, surtout à l'époque quand ce psaume était écrit, où une ville avait l'habitude d'être entourée par les murs, d'avoir des postes de garde et d'avoir plusieurs gardes qui faisaient leur ronde et qui avaient le jour les gardes, puis ensuite la nuit les propres gardes. Et on peut imaginer combien c'est, comme toujours aujourd'hui, celui qui travaille de longues heures tout le long de la nuit, c'est toujours plus difficile que ceux qui travaillent pendant la journée. Et on peut comprendre que la tâche de ce garde qui doit veiller, qui doit rester réveillé, qui doit être à l'affût pour n'importe quel danger qui pourrait venir et donc avertir la ville, plus la nuit passe, plus la fatigue se fait ressentir, plus les yeux se font lourds, plus les paupières veulent se fermer au point où on peut comprendre la sentinelle qui regarde vers l'horizon et attendre impatiemment le matin pour que la relève vienne, prenne sa place et que lui puisse aller enfin dormir et se reposer. Si nous avons appris à espérer en l'Éternel ainsi qu'à attendre sur l'Éternel, nous n'aurons alors plus aucun problème à compter sur le Seigneur, à garder nos yeux et notre cœur rivés sur lui, sachant que la relève arrive, que ce n'est pas pour toujours. Notre patience et notre espérance n'est pas vaine. Dieu fera comme il a promis. La lumière arrive. La nuit peut sembler longue. Notre vie peut sembler longue. Le problème par lequel nous sommes en train de passer peut sembler pesant, lourd, interminable. Rappelez-vous qu'il dit au chapitre 1er qu'il est au fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Et on peut avoir l'impression que nos émotions, même notre propre pensée, notre chair, nous dit que ce n'est pas la peine, qu'il n'y a plus d'espoir. N'écoutons pas tous ces mensonges et gardons nos yeux, notre cœur sur notre Seigneur. Espérons en lui comme le garde qui attend avec impatience, mais avec espérance. Le matin. Il sait que le matin va arriver. C'est un processus logique de ce qui va se passer. Et ça doit être la même chose pour nous en tant que chrétiens. Que Dieu réponde à sa promesse, que Dieu fera comme il a dit, c'est juste le processus logique de ce qui va arriver. On n'attend pas pour rien, on sait que ça va venir. Il faut être patient, il faut persévérer. C'est pas parce que ça semble long que mes paupières sont lourdes, que j'ai mal à la tête, que j'en peux plus, que je sais que le matin arrive. Je sais que Dieu fera comme il a promis. Je n'attends pas pour rien. Je ne peux pas abandonner mon poste, ni mes responsabilités. Regardons et comptons sur notre Seigneur. Il ne va pas nous laisser tomber. Notre texte dit que nous comptons sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Vous l'avez remarqué ça aussi, je suppose. Les gardes ont fait leur travail, ils ont veillé jusqu'au matin. Il dit, dans un certain sens, nous avons veillé et compté sur Dieu encore plus que cela. Personnellement, j'attends le retour de Christ et je compte sur son retour bien plus que les gardes ne comptaient sur le matin, pour ainsi dire. Certains pourraient dire, oh, ça fait longtemps, Philippe, que tu parles que Christ va revenir, il n'est jamais revenu, et ils pourraient se demander, est-ce que je ne me fatigue pas d'attendre? Mais je ne vois pas les choses comme cela. Je me dis que le plus que j'attends, le plus que le temps passe, le plus que j'ai dit que le Seigneur va revenir bientôt et qu'il n'est toujours pas revenu, le plus que c'est juste une évidence que je suis encore plus près aujourd'hui de son retour que je ne l'étais hier ou que je ne l'ai été l'année dernière. Et donc, au lieu d'être défaitiste, je suis encore plus impatient, je suis encore plus excité parce que je suis encore une année plus proche de son retour que je ne l'étais l'année dernière. Suzanne le sait, pour moi, j'ai souvent cette idée-là par rapport au retour de Christ où je suis une année de plus près de son retour. Je ne fais pas cela au 1er janvier, je fais cela sur le jour de mon anniversaire. J'ai vécu une année de plus où je suis une année de plus près de son retour que je ne l'ai été l'année d'avant. Alors quand on me rappelle depuis combien de temps j'attends le retour de Christ, je ne peux que me réjouir. Parce que je sais que j'y suis encore plus proche aujourd'hui. Je sais que Dieu ne ment pas. Je sais que Christ va revenir et je compte sur lui. Je sais que je n'attends pas en vain. Que ce soit le chrétien individuellement ou l'église locale, nous ne devons jamais laisser le temps ou la fatigue nous empêcher de compter sur le Seigneur. Alors gardons nos yeux et notre cœur sur lui. Parce qu'on sait qu'il arrive. Il vient bientôt. C'est à nous d'être prêts. Pour conclure, pour terminer, j'aimerais que, maintenant que nous avons vu plus en détail ces versets 5 et 6, de revoir ce chapitre et de le revoir ces versets avec moi si vous voulez bien. Verset 1er dit Cantique des degrés, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Cantique des degrés parle d'une progression à travers le chant. Facile à voir cette progression, même sans parler des cordes et des notes de musique qui faisaient partie de ces progressions, de ces degrés. Mais même dans ce qu'il dit, la façon de parler, ou dans les paroles qui allant de l'abîme à avoir une assurance complète dans le Seigneur. D'ailleurs, ce mot abîme parle bien de cette idée d'être si bas qu'on ne peut pas aller plus bas. Il y a d'autres psaumes qui parlent de gouffres et de trous, mais un abîme, l'idée même, c'est d'être dans un endroit si bas qu'on est dans une obscurité. Il n'y a pas d'abîme qui existe où la lumière est là. On se sent perdu. D'ailleurs, souvent quand on parle des abîmes, on pense à dans les océans. On est au plus bas. On ne sait même plus dans quelle direction est le haut et le bas. Mais vraiment complètement perdu, plus en contrôle de la situation. Mais même là, nous pouvons et nous devons prier, prier encore. Le Seigneur est là au plus profond de l'abîme pour nous entendre, pour nous écouter et nous aider. Verset Dieu, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Combien ce serait pire si nous étions plus bas et qu'on avait l'impression que Dieu n'écoutait pas, n'est-ce pas? Qu'on devrait faire des choses pour attirer son attention. Mais on passe par un moment extrêmement difficile, on se rappelle qu'il faut prier, on prend le temps de prier, ainsi que de prier correctement avec humilité et soumission, avec foi et amour. Mais si on n'était pas certain que Dieu écoute ma voix, c'est ce qu'il dit, Seigneur, écoute ma voix. C'est personnel. C'est pas juste la voix de ton peuple, mais c'est personnel. Les oreilles de Dieu, pas les oreilles d'un ange qui lui retransmet le message, mais directement aux oreilles de Dieu lui-même. Sont attentifs, donc font attention à mes supplications, toujours personnelles. Je sais que Dieu ne reste pas insensible et c'est ce qui commence à me donner justement de la force. C'est ce qui commence le processus à m'aider à refaire surface parce que je sais que Dieu écoute et ne fait pas la sourde oreille. Je ne prie pas à une statue qui ne peut entendre ni bouger, mais Dieu écoute, Dieu entend et Dieu est touché par mes supplications. Verset 3, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? On pourrait faire tout un message rien que sur ce verset 3. Mais on vient de dire qu'on apporte des supplications à Dieu. On ne demande donc pas à ce que Dieu nous donne ce qu'on mérite. C'est ça des supplications, n'est-ce pas? On dit, Seigneur, s'il te plaît, ne donne pas ce que je mérite. Et ici, on précise encore en plus, nous avons péché, nous avons désobéi. Si Dieu restait sur ce que nous avons fait, nous n'aurions alors dans ce cas-là aucun espoir, aucune raison d'espérer, aucune raison de prier. Mais nous savons que Dieu est un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté, qui prend même plaisir, et on a encore du mal à comprendre, que Dieu, pas juste qu'il pardonne parce qu'il faut, mais que Dieu prend plaisir à pardonner ceux qui s'en remettent à lui. Ensuite, le verset 4, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Heureusement que ce mais se trouve là. Et heureusement que le pardon se trouve auprès de Dieu. Heureusement que Dieu pardonne toujours et encore, sans exception, à cause de qui il est, pas à cause de qui nous sommes. Il nous donne même l'une des raisons pourquoi Dieu pardonne ici. Pas parce qu'on mérite d'être pardonné, mais pour nous aider à apprendre à le craindre. Vous connaissez bien ce mot craindre. C'est le mot qui parle de révérence, comme on l'a dans les proverbes, qui nous dit de que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. C'est le même mot. D'abord, cette révérence. On réalise combien Dieu est grand. On réalise combien Dieu est au-dessus de nous et de toutes choses, combien nous sommes perdus si Dieu choisissait de faire justice. de nous donner ce qu'on mérite, s'il choisissait de ne pas pardonner. Mais comme le verset nous dit, mais le pardon se trouve auprès de Dieu, pour nous apprendre à le craindre, lui donner la référence, la louange et l'adoration qu'il mérite. Suite à cela, nous avons les versets 5 et 6 qu'on vient de voir en détail. Et donc, on peut aller sauter au verset 7 qui nous dit « Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. » Ça devrait être une évidence que ce verset découle comme étant le résultat logique des versets 1 à 6. Puisque je suis dans un abîme, puisque j'ai péché et ne mérite pas d'être pardonné ou secouru, mais parce que Dieu m'aime et pardonne quand même, et parce que je choisis de placer mon espérance dans le Seigneur et ses promesses, alors je peux mettre mon espoir en l'Éternel. La raison que je sais que je ne serai pas déçu est parce que je sais que la miséricorde de Dieu dure à toujours. La miséricorde est toujours auprès de l'Éternel et la rédemption auprès de lui en abondance. Vous avez remarqué ça aussi, en abondance. C'est bien plus que juste suffisant. Si notre besoin est une coupe, la rédemption, ce mot veut également dire délivrance, notre délivrance, y est versée en abondance au point de déborder. Pas juste un peu, mais beaucoup hors de cette coupe. Oui, il dit précisément ici qu'il parle à Israël, n'est-ce pas, de mettre son espoir en l'Éternel. Mais nous n'aurons jamais, nous, la moindre, le témoignage d'un enfant de Dieu qui place sa confiance, son espérance en l'Éternel pour ensuite dire qu'il l'a regretté. Que Dieu ne l'a pas écouté, que Dieu ne lui a pas pardonné et que Dieu ne lui a pas montré miséricorde et grâce. Et ensuite, il termine avec le verset 8, c'est lui qui rachète Israël de toutes ses iniquités. Encore une fois, il parle spécifiquement à Israël. Alors permettez-moi de lire un passage en Tite, chapitre 2, verset 11 et suivant nous dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, et non zélé par les bonnes œuvres. Mais pour attendre, espérer, regarder. Nous ne serons jamais déçus d'avoir placé notre âme entière, notre être entier en l'Éternel. Prions, s'il vous plaît.